Le masque et la plume. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en public au théâtre de l'Alliance française pour Un masque et la plume, consacré ce soir à l'actualité du cinéma avec à couteau tiré Sophie Avon de Sud-Ouest, Nicolas Chalère de l'Obs, Jean-Marc Lalanne, le patron des Arts Occuptibles, et avec Pierre Murat-Pierrot de Télérama.fr. On parle ce soir des films de Robert Guédiguian, d'Elia Souleymane, de Proxima, de Chanson douce, de Seules les bêtes, de Brooklyn Affairs, de À couteau tiré. Et sachez que dimanche prochain, on reparlera encore de cinéma pour parler du film sorti cette semaine, notamment le Terrence Malick ou le Pascal Bonitzer. Dans le courrier de la semaine, beaucoup, beaucoup de réactions, vous l'imaginez, après Le Masque où il fut question de J'accuse, de Roman Polanski. Pour Bruno Gouriou de Brest, le film de Polanski sort en cette période agitée de société moisie par l'antisémitisme. Arnaud Sanquer parle d'un document historique précieux, un thriller asphyxiant, une reconstitution esthétiquement bluffante. Pour Guy Angela de Mélan, en Isère, c'est une œuvre magistrale mise en scène au cordeau, avec une reconstitution impressionnante. Ce film devrait être projeté dans tous les établissements scolaires. Jérôme Duvivier de Lyon a retrouvé le grand Polanski avec ce film de couloir et de bureau. Au contraire, Pierre Cusor a eu l'impression que J'accuse était produit par le Musée Grévin et la Comédie Française. Un film sans vraie vie, sans flamme. Monsieur Naudex parle d'un film empaillé. Séverine Détette parle d'un film très empesé, limite empoulé. Pour Gildas Bourik, c'est une coquille vide, c'est inutile car elle n'explique rien qu'on ne sache déjà. Jacques Palloumet, d'Asnières sur Seine, nous dit à la question « Monsieur Polanski est-il coupable d'avoir commis sur un sujet aussi important un film aussi insignifiant ?» La réponse est « oui ». Pour Daniel Le et Louge Malo, le film de Polanski est décevant, ennuyeux, n'a strictement aucun intérêt, ni au plan historique, ni au plan cinématographique. Pour Nico de Salon de Provence, c'est poussif, mal monté, empesé. On ne joue pas au cinéma comme au théâtre, que diable. J'accuse, écrit Mélanie Vernus de Colombe, m'a laissé complètement indifférente. Je n'ai rien appris, rien compris, rien ressenti. Comment, demande Bernard Marx, un critique aussi avisé que Michel Simon, peut-il affirmer que ce film est le film sur l'affaire que nous attendions depuis un siècle? Je me pose la question. Michel Le Porcher, citoyenne féministe cinéphile, reproche même à Polanski de nous servir un film anti-Dreyfusard, pauvre Dreyfus caricaturé comme il l'était de son temps. Pierre Lepilouer de Valory lance une hypothèse à propos de l'apparition de Polanski en académicien dans son film. Il a peut-être eu vaguement conscience de réaliser un film très académique. Anne Gros-Didier rappelle pour sa part que Polanski est membre de l'Académie des Beaux-Arts où il a été élu au fauteuil de Marcel Carné. Le costume qu'il porte dans le film est donc sans doute le sien. Enfin, des colères que je ne peux pas évidemment cacher dans le courrier de la semaine. Madame Fouillou, j'ai eu la nausée en écoutant les critiques unanimes du Masque et la Plume sur ce film que j'imagine formidable, mais que je boycotte tout autant que je vais boycotter cette émission culte. Voilà, Anaïs Couté est extrêmement déçue par Le Masque qui oublie que Polanski est un criminel condamné. En cessant d'encenser ces hommes qui abusent de leur pouvoir, nous créerons un nouveau monde égalitaire. Adieu Masque, adieu Plume. Tiphaine Vanlemans accuse Le Masque d'avoir manqué de respect aux victimes, à toutes les femmes qui ont été l'objet de violences sexuelles et sexistes. Marion Cibla ne veut pas séparer le metteur en scène de l'homme, surtout quand il se sert de son art pour jouer les victimes. C'est intolérable. Sarah Santoni nous accuse d'avoir fermé les yeux sur les crimes commis par le réalisateur. Je rappelle qu'on parlait du film, effectivement, et pas de l'homme. Enfin, Sandra Spano nous interpelle que vous ignoriez la condamnation par un tribunal américain d'un réalisateur en dit long sur le chemin de lutte qu'il reste à parcourir aux femmes pour que les crimes du système patriarcal soient pris en compte. Est-ce que vous voulez réagir à les critiques, à ce courrier un peu paradoxal, Nicolas, non ?
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'il faut toujours recontextualiser les films, quel que soit leur sujet, par rapport à la vie privée de leur auteur, ce qui, je pense, est intéressant sur le J'accuse, parce qu'il y aurait vraiment beaucoup de choses à en dire, je pense que là, on n'a pas le temps. Mais bon, moi, après, je suis contre la censure, je trouve qu'il faut aller voir les films et les montrer.
Après, les qui, d'ailleurs, rencontre un énorme succès, hein. Je crois que c'est près d'un million déjà de spectateurs.
Après, contextualiser les choses et réfléchir à l'œuvre par rapport à l'auteur, oui, je trouve que c'est vraiment important.
Pierrot, ou Sophie, ou Jean-Marc, je ne sais pas si vous voulez dire un mot.
Vas-y, je t'en prie.
Moi, je suis plutôt pour Proust et contre Sainte-Beuve, donc voilà, je sépare l'homme et l'œuvre, mais je comprends très très bien les réactions. Cela dit, si on se lance dans un débat sur faut-il boycotter Polanski, à ce moment-là, il faut boycotter Céline, il faut boycotter des tas de gens, c'est très compliqué, mais voilà.
Oui, puis c'est un choix personnel. Enfin, j'entends complètement qu'on ait envie de boycotter Polanski, et en même temps, les gens qui ont fait le choix de le boycotter doivent entendre qu'un critique de cinéma peut trouver le film intéressant, que c'est probablement le film le plus réussi de Polanski depuis assez longtemps, et que c'est le travail d'un critique de le dire aussi.
Sophie.
Oui, moi je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec le papier de Philippe Lançon dans Charlie qui dit c'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est un bon film. Et c'est impensable d'imaginer d'empêcher de voir les gens de voir ce film. Une société comme celle que décrit ta lectrice, j'en ai pas envie. J'ai envie d'une société libre, quelles que soient les.
Allez, et puis on leur souhaite quand même de rester fidèles malgré ce qu'ils écrivent les uns et les autres. Au masque et la plume, allez, on commence avec Chanson douce, l'adaptation par Lucie Borletteau, dont c'est le deuxième long-métrage du fameux roman de Leïla Slimani, qui a reçu le prix Goncourt, je vous le rappelle, en 2016, avec Karine Viard, Leïla Bekti, Antoine Reynard, ce roman qui s'ouvrait, je vous le rappelle, par l'assassinat de deux enfants d'un couple bobo perpétré par leur nounou, Louise, et la découverte du crime par la mère qui venait de reprendre son poste dans un cabinet d'avocat contre la vie de son mari. Le reste du livre relatant les faits qui ont abouti à ce drame. Dans ce film co-scénarisé par Jérémy Elkaïm, c'est Karine Viard qui endosse le rôle de la nounou meurtrière, les parents étant joués par Leïla Bekti et Antoine Reynard. Mais quelle drôle d'idée, en tout cas selon moi, de n'avoir conservé dans le film ni la construction, qui était assez vertigineuse, du roman, ni donc ces flashbacks qui allaient avec, de l'avoir en somme un peu banalisé. Voilà mon sentiment, mais vous allez me dire ce que vous en pensez, Jean-Marc.
Je pense effectivement que l'idée la plus faible du film, c'est effectivement de réinjecter du suspense dans le récit. Un spectateur qui ne connaîtrait pas le roman pourrait ne pas s'attendre à ce qui va se dérouler à la fin. Et le film fait le choix du thriller en créant une surprise finale. D'une part, je pense que ce n'est pas le sujet, évidemment pas du roman, mais au fond pas tellement celui du film. Le côté un peu Stephen King de cette histoire avec une méchante, c'est vraiment ce qu'il y a de plus superficiel et de moins intéressant dans le film. Et en plus, quand il se passe le drame terrible, je trouve que, pour le coup, la cinéaste démissionne un peu en choisissant une ellipse que je trouve beaucoup trop expéditive, et que quand on raconte un truc aussi violent, il faut s'y confronter et qu'on peut pas s'en débarrasser comme ça en deux plans elliptiques. Après, malgré toutes ces réserves, je trouve le film intéressant. Je pense que Lucie Borletteau est une cinéaste vraiment très intéressante et qu'elle est très forte pour camper un milieu. C'était déjà ce qui était vraiment frappant dans son premier film qui se passait presque entièrement sur un bateau, Fidelio, qui est un beau film. Et là, je trouve que le milieu social décrit, les sociotypes qu'incarnent Antoine Reynard et Leïla Bekti sont extrêmement réussis, légèrement satiriques et en même temps...
C'était le cas déjà du roman de Leïla
Slimani,
qui racontait bien ce milieu.
Voilà. Et ça, elle retranscrit de manière vraiment très vivante.
Sophie ?
Oui, moi je suis assez d'accord avec Jean-Marc. En effet, le gros problème du film, c'est cette façon de détourner d'une certaine manière le propos du livre, parce que ce que faisait Leïla Bekti très habilement en nous mettant immédiatement face à l'horreur, c'est que d'une certaine manière, elle désamorçait et elle nous en débarrassait, ce qui nous permettait de regarder le personnage de Louise, d'abord effectivement comme un monstre, mais ensuite petit à petit, non pas pour essayer de le comprendre, mais juste parce que d'une certaine manière, Louise qui aime ses enfants dont elle s'occupe et qui est folle...
C'est ça qui était tout à fait intéressant dans le livre et dans le film.
On l'a regardé du coup débarrassée d'une entre guillemets de ce qu'elle avait fait. On pouvait la regarder à part entière, quoi, d'une certaine manière, parce qu'elle tend aussi un miroir. Il y avait quelque chose d'universel. Elle nous tendait un miroir de nos noirceurs, de nos pulsions les pires. À tout le monde, elle tend un miroir. Là, ayant remis ça dans l'ordre chronologique, on se retrouve effectivement juste face à un personnage dont on sent. C'est pas tant une question de suspense parce qu'on sent que ça va mal se passer, mais on est simplement absorbé par la question unique, à quel moment et et comment elle va passer à l'acte. Et donc on les renvoyait à la périphérie de l'histoire. En plus,
alors que Slimani s'en débarrassait dès le début.
Et bien sûr, donc du coup on reste
c'était
vraiment
plus
à la
problème,
surface.
Si
et en plus, elle montre cette folie, elle la montre comme une succession de bizarreries, comme une succession d'anomalies. On reste dans quelque chose de très léger. Et effectivement, c'est dommage parce que par ailleurs, le film est plutôt bien fait.
Nicolas,
Je ne vais pas rajouter grand-chose. Je suis complètement d'accord avec ce que vous venez de dire. Il y avait effectivement dans Fidelio, en plus, on sentait qu'elle voulait vraiment questionner. C'est assez subversif comme film. Elle voulait un peu questionner les habitudes et les codes amoureux. Et là, j'ai l'impression qu'elle veut aussi questionner quelque chose de notre vie quotidienne. Moi, je me suis beaucoup retrouvé dans ce couple de bobos parisiens et dans la manière dont elle les filme. Et je trouve qu'il y a une vérité. Oui, j'avoue. Il y a une vérité dans la manière dont elle commence le film.
Et une nounou ou pas?
Oui. On a fait un casting. Et le casting de nounou est très juste et très bien vu. Et je pense que j'aurais pris Karine Viard, ça se trouve. Et c'est ça qui me terrifie encore plus. Et effectivement, je vais répéter ce que vous avez dit, mais de déplacer le meurtre, parce qu'on le sait, ça met le suspense en avant, alors que l'autre mettait vraiment l'intelligence en avant et d'essayer de comprendre effectivement comment tout ça allait mener à ce drame. Et ce qui est d'autant plus terrible, c'est que les parents disparaissent petit à petit du récit, ce qui est vraiment intéressant sur le papier dans l'idée, mais ce qui pose problème au film dans la manière dont on arrive au meurtre. Il y a un suspense, moi, les 10 dernières minutes, je les trouve vraiment crapoteuses et problématiques, quoi.
Alors, Pierrot.
Je vous trouve très gentil parce que c'est vraiment très, très nul. C'est nul dans la façon d'aborder le sujet, c'est nul dans la description. Vous trouvez que le couple de bobos bourgeois est bien décrit, mais c'est une caricature totale.
Mais non.
Nicolas s'y a reconnu.
Très aimable.
Mais ils sont pas aimables, ils sont cons. Là, dîner avec des amis est une épouvante. Enfin, on n'a pas le droit de montrer des gens aussi bêtes.
Parce que ça va pas assez loin.
Mais non.
Parce qu'elle creuse pas assez la scène.
Elle n'y connaît rien. Simplement, il n'y a que Chabrol qui savait bien filmer la bourgeoisie parce que lui savait exactement les tards.
C'est pas la même bourgeoisie.
Je pense que la réalité est plus proche aujourd'hui de ce que filme Borloo.
Oui, quand même. Et d'autre part, quand tu parles, Jean-Marc, de suspense, mais il y en a absolument aucun.
C'est vrai.
Ce qui fait que dès qu'on voit Karine Viard, le premier plan qu'on voit, enfin, c'est sûr, Karine Viard est une excellente comédienne. Mais enfin, il faut qu'elle ait un minimum de direction. Là, on voit qu'elle est la méchante. Enfin, elle tourne la tête comme
non,
ça.
Elle a un côté maternel très rassurant. Elle est très sévère.
C'est parce que tu avais lu le roman, ça, mais non.
Enfin, moi, je n'ai pas marché, mais une minute, ni au suspense, ni à la classe.
La satire sociale.
Sociale, bourgeoise décrite, je trouve ça d'une caricature et d'un ennui absolu. Quand Leila Bekhti passe les concours, la pauvre, ça m'a fait, alors c'est peut-être moi qui suis très mauvaise foi, je m'en excuse, ça m'a fait penser, vous savez, à Sally Field dans un film comique qui est l'humeur des nanas et brusquement elle voit apparaître Mrs. Doubtfire, ce qui fait que, en effet, quand j'ai vu Karine Viard, j'ai vu Mrs. Doubtfire, je me suis dit, oh là, c'est une catastrophe. Non, mais je trouve ça un échec absolu.
Chanson douce de Lucie Borloteau. Proxima d'Alice Winocourt, la réalisatrice d'Augustine, avec Eva Green, Matt Dillon, Alexei Fatif, Lars Edinger, Sandra Hüller. Un film sur la conquête de l'espace, en l'occurrence Mars, mais a priori on se dit un de plus, n'est-ce pas Nicolas? Après Gravity ou Ad Astra, à ceci près qu'il se déroule sur Terre et se termine d'ailleurs sur la base de lancement de Baïkonour. Ce sont en effet les préparatifs au grand décollage que nous montre la réalisatrice d'Augustine, Sarah, donc Eva Green, une astronaute française, a été sélectionnée pour effectuer dans l'espace une mission d'un an en compagnie d'un Russe et d'un Américain. C'est très consensuel tout ça, c'est assez idéal. Elle est jeune, divorcée, mère d'une fillette de 8 ans, Stella, qui est jouée par la petite Zélie Bouland-Lemel. Et le film raconte, avec, il faut dire, une incroyable précision technique, la préparation dans les centres d'entraînement de Cologne et de Star City, près de Moscou. D'ailleurs, on la voit à un moment donné, par exemple, faire des essais en piscine, en tenue de scaphandrier. C'est assez impressionnant. Mais aussi la difficulté, évidemment, pour elle, de se séparer de sa fille, qu'elle élève seule jusque-là. Il y a chez Sarah donc un mélange d'excitation à partir et de culpabilité de devoir abandonner cette petite fille qu'elle aime beaucoup. Pierre, est-ce que tu as découvert des choses sur la préparation au moins au décollage?
Oui, j'ai découvert plein de choses. Mais c'est un film moi, que j'aime vraiment beaucoup. Je trouve que...
Mais tu n'as pas à t'en excuser?
Non, je m'en excuse pas, mais je m'étonne moi-même parce que c'est pas un sujet comme ça. Je me suis dit, la préparation, le départ, le Baïkonour, tout ça, je vais m'ennuyer beaucoup.
Et on se dit à un moment qu'ils vont partir, en fait. On y croit presque.
Oui, absolument. Non, mais je trouve que c'est un film qui est un film vraiment... féministe, mais au très bon sens du terme. C'est-à-dire que j'aime beaucoup la façon, par exemple, dont la réalisatrice instaure les rapports qu'il y a entre cette mère et cette petite fille. La petite fille est étonnante.
Étonnante.
Elle est magnifique parce que elle n'en fait pas. En général, des enfants dans le cinéma, quelquefois, on en fait un tire-larme, quoi. Enfin, c'est-à-dire, et là, pas du tout. Pas du tout.
C'est la même que... des moments de colère rentrés qui sont oui. presque des colères d'adultes.
Eva Green, le personnage d'Eva Green, sent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Elle essaye de faire des choses, mais elle ne veut pas renoncer à sa vie, son métier. Je trouve que c'est vraiment un film qui est extrêmement précis, tu l'as dit, mais et c'est vrai que souvent, chez elle, c'est presque un documentaire. Et c'est vrai qu'on retrouve cette précision, et cette... mais en même temps, un vrai lyrisme dans les rapports de cette mère et de cette fille, et puis même l'ex-mari qui est là, qui en veut un peu.
Oui, enfin, on le voit pas beaucoup. Hein.
Oui, mais quand même, ils sont là. Et puis, par exemple, elle a dit, la réalisatrice, que souvent les astronautes femmes ont du mal à se dire qu'elles sont mères, parce qu'elles sentent que ça va les déconsidérer, tandis que les hommes se vantent beaucoup. Et ben, tout ça est dit avec beaucoup de finesse et beaucoup d'étrangeté.
Sophie.
Oui, je suis d'accord, j'aime beaucoup le film et j'aime beaucoup le fait que sous couvert de montrer de manière, comme tu l'as dit, très technique, avec des choses très inédites...
Oui, d'ailleurs, pour ce qui est de Cologne et de la Russie, c'est à la limite, effectivement, du documentaire. Là.
Oui, bien sûr. Mais en même temps, ce que j'aime dans le film, c'est que justement, sous couvert de montrer ça de manière extrêmement précise, extrêmement inédite, avec des scènes assez fascinantes, effectivement, où elle a ce bras articulé, enfin, vraiment des choses qu'on n'a jamais vues, sous couvert aussi d'un film, en effet, féministe, parce que finalement, c'est rare d'être enfin, on s'aperçoit qu'il y en a pas mal finalement, mais enfin pas tant que ça, de femmes qui participent à ce genre de mission. Eh bien, c'est quand
même. Il y
en
a presque aussi peu que de critiques de cinéma.
Néanmoins, il y en a. Je trouve qu'Alice Vinocourt arrive à vraiment faire un film sur ce que c'est que d'apprendre à vivre à tous les âges de la vie. Qu'on soit une petite fille de 8 ans, qu'on soit une femme de 30 ou 40 ans, ou qu'on ait 80 ans, on apprend avec ce film, c'est vraiment le métier de vivre, le métier comment se délester de tout. Par une succession d'arrachements. Et je trouve que c'est très beau parce que cette façon qu'elle a de montrer l'arrachement à la terre, qui d'une certaine manière métaphorise de manière majuscule toute cette succession d'arrachements, c'est jamais forcé. Parce que tous ces délestages se renvoient les uns aux autres. Hein. On coupe le cordon quand on est, ensuite on se sépare de sa mère, ensuite on se sépare de sa fille, ensuite on se sépare de la terre. Hein. Et comme ça jusqu'à la mort. Bon, je trouve qu'il y a quelque chose comme ça de tout à coup vertigineux qui est vraiment très très beau dans le film et qui dépasse de loin le simple féminisme, le simple, enfin, encore que ce soit pas si simple, mais...
Jean-Marc ?
Oui, je suis vraiment tout à fait d'accord, c'est un film extrêmement profond. Il y a le sujet évident qui est celui de la charge mentale, du fait que pour une femme, en fait, il n'y a que la femme qui culpabilise d'avoir à se séparer de son enfant, et tous les hommes autour d'elle ne connaissent pas cette culpabilité qui l'enfreint. Donc là-dessus, le film est assez puissant. Mais au-delà, il y a quelque chose de beaucoup plus poétique et profond. Sophie disait que c'était un film qui apprenait à vivre. Moi, je dirais aussi que c'est un film qui est, dont le sujet profond, c'est vraiment la mort et comment préparer les autres à sa propre disparition. Pour moi, ça ne parle que de ça.
Apprendre à vivre,
les gens, ils vont pas y aller, là. Hein.
Oui, mais si, c'est vraiment un sujet bouleversant. Enfin, je pense que
c'est pas un film funèbre, ça,
et
je veux dire.
Moi, je pense que le film est bouleversant et il est de manière extrêmement impressionniste. C'est-à-dire qu'il n'opère que par toutes petites touches et à la fin, il y a une décharge émotionnelle extrêmement forte qui fait que moi, j'en suis sorti les larmes aux yeux. Ouais. Alors même qu'on voit pas venir cette émotion parce qu'il y a vraiment pas de câble, quoi. C'est vraiment pointilliste et extrêmement subtil dans sa composition. Je trouve qu'Eva Green n'en a pas parlé, mais c'est une
actrice. Absolument, ce que j'allais dire, justement. Voilà. Ce que je voulais ajouter, c'est enfin
Parce que jusque-là, on l'avait
fait
dans des rôles où elle était ironique. C'est-à-dire qu'elle en faisait des tonnes et de manière assez drôle, souvent dans des films américains.
Très, très bien.
C'est assez rare de la voir dans du cinéma d'auteur français. Et elle réussit pour une fois ce registre extrêmement subtil de l'émotion.
Et Nicolas.
Je suis un peu d'accord avec tout ce qui vient d'être dit, mais c'est intéressant. Et je voulais parler d'Eva Green, effectivement, qui amène cette physicalité, ce côté. Ce côté très déterminant.
Tu vis pas avec Ségolène Royal, par hasard. Cette physicalité d'Eva Green.
Voilà, j'ai inventé. Non, mais elle a quelque chose de très.
Elle est verticale.
Elle est très déterminée, elle est très grande, elle est très comme ça. On sent qu'elle a, en plus, elle a visiblement passé l'entraînement aussi. Elle est très, comme ça, son corps est sculpté. En même temps, il y a toujours ces grands yeux ronds qui ont l'air de regarder ailleurs. Et c'est là que le film, je trouve un équilibre assez miraculeux entre le concret et effectivement ce que vous disiez, le document, le côté documentaire, et puis toujours une note, quelque chose qui regarde ailleurs. Et c'est ce regard ailleurs, c'est l'envie d'aller sur la station internationale. C'est, moi, je trouve que c'est un film qui raconte qu'on ferait mieux de s'occuper un peu aussi de soi, de la terre, de ses proches, plutôt que de fantasmer toujours l'ailleurs. Et ça s'inscrit complètement dans un mouvement aujourd'hui du cinéma spatial. C'est-à-dire qu'on avait vu Ad Astra, on a vu First Man, qui sont des films où en fait on part dans l'espace et on part dans l'infini pour en fait se retrouver et se confronter à soi-même. Quoi. Il y a vraiment
ce qui était le cas côté, de Gravity aussi.
Voilà, Gravity aussi. Il y a vraiment un côté psy de plus en plus dans ce cinéma-là. Et d'une certaine manière, celui-ci, alors il n'a pas les mêmes qualités que les autres, mais arrive le mieux à synthétiser peut-être ces deux tendances.
Il y a d'autres qualités.
Oui, il y a d'autres qualités. Beaucoup plus qui sont peut-être moins. La mise en scène est beaucoup plus sobre et beaucoup plus. Mais il y a une écriture et vraiment quelque chose d'assez miraculeux dans ce film que je
la grâce.
Une grâce, oui.
C'est Proxima d'Alice Winocourt avec donc Eva Green. D'ailleurs, je signale parce que c'est aussi un autre visage, si j'ose dire, une autre voix d'Eva Green que vient de sortir. Une version audio du livre de la jungle de Kipling adaptée et lue et dit donc et par Eva Green et par sa mère Marlène Jobert, et que ça fait un très beau livre, je vous le dis encore hein, si vous n'avez pas fait vos cadeaux de Noël, la mère et la fille adaptant Kipling, c'est aussi un beau moment à écouter. Gloria Mundi, ainsi passe la gloire du monde, le nouveau film de Robert Guédiguian avec Ariane Ascaride, sacrée meilleure actrice à la Mostra de Venise, Jean-Pierre Darroussin, Gérard Mélan, Anaïs de Moustier, Robinson Stévenin, Lola Nomark, Grégoire Le Prince Ringuet, bref, toute la petite troupe des jeunes et moins jeunes acteurs de Guédiguian, un film qui se passe évidemment à Marseille, mais une Marseille nouvelle pour Guédiguian, à la fois mondialisée et ubérisée. C'est là que débarque Daniel, qu'on surnomme le Gitan. D'ailleurs, il a le visage du Gitan, qui est joué par Gérard Mélan. Il vient de purger une longue peine en prison, où il a tué le temps en écrivant des haïkus, comme le fait souvent Jean-Marc Rosin Roch. Il retrouve, je disais des haïkus, hein, je dis pas qu'il était en prison. Il retrouve son ex-femme Sylvie, c'est Ariane Ascaride, qui s'est remariée avec Richard, qui est chauffeur de bus, c'est donc Jean-Pierre Darroussin. Et elle, ben, elle fait des ménages en entreprise. La fille qu'ont eu Daniel et Sylvie vient de mettre au monde une petite Gloria, d'où le titre aussi. Mais le bonheur de la famille recomposée va être de courte durée. On ne vous dira pas, même Pierre, pourquoi ni comment ça va exploser.
Si, si.
Mais ça va être très très violent,
si, si.
Puisque la comédie va virer à la tragédie. 2 ans après la villa, Guédiguian est plus pessimiste que jamais, plus noir. Il croit plus en rien dans ce film, en tout cas, ni à la solidarité, ni en l'humanité. On a l'impression qu'il s'éloigne de l'Estac, qu'il est un peu écrasé par ces buildings en verre fumé de la nouvelle Joliette, qu'il filme d'ailleurs pour la première fois. Pierre, donc, tu voulais raconter la fin, c'est ça ?
Je vais raconter la fin. Oui. Mais non, je trouve que c'est un film qui est, enfin, depuis quelque temps, Guédiguian me semblait peut-être un peu là. Et là, s'il est de plus en plus noir et désespéré, il retrouve une vigueur de filmer, je trouve, qui est très séduisante. Je trouve que tout ce qu'il montre, la façon dont il le montre, ça respire le romanesque qu'il sait faire, cette espèce
de... Ah, le romanesque noir, encore une fois.
Oui, le romanesque noir. Et c'est vrai que c'est très désespéré, c'est noir, puisqu'il n'y a plus tellement de solidarité, il n'y a plus tellement de compagnonnage entre les êtres, ou du moins, c'est réservé. Et ça, c'est peut-être aussi un signe de l'âge. Il le réserve, cette amitié qui reste entre les gens, aux gens plus âgés. C'est-à-dire que c'est Ariane Ascaride, c'est Jean-Pierre Darroussin, c'est Gérard Mélan qui ont...
Mélan qui est formidable en Taiseux.
Ils sont tous très bien. Ariane Ascaride a obtenu le prix d'interprétation à Venise.
Et Mélan aurait mérité aussi.
Mais il serait un prix d'interprétation collectif qui eût été... Voilà, donc c'est très loin. Et les jeunes sont coincés entre le couple Robinson-Stévenin-Anaïs de Moustier qui sait pas comment s'en sortir... Et donc, il y a une impossibilité qu'il montre très bien dans notre société à aller de l'avant et à sortir. Et puis, les profiteurs, l'autre couple, la Némarque et...
Qui est un couple assez effrayant.
Qui est assez effrayant. Et alors voilà, c'est peut-être la petite chose. Donc je vais pas vous dire la fin, mais il me semble que tous ces personnages, tout ce qui leur fait faire et dire, c'est tellement touchant, tellement dur, mais en même temps poignant, que je regrette un peu que
la fin est un peu excessive, il
se laisse aller à des péripéties. Alors là, même pas romanesques, mais dramatiques, dont personnellement on se serait passé. Le film aurait été beaucoup plus fort sans ça, je trouve.
Nicolas.
Vous êtes gentil quand vous dites à la fin ils sont un peu caricaturaux. Le couple de le prince Ringuet et Neymar, et même j'allais dire celui de Stevenin Anis de Moustier. Je les trouve vraiment il les filme avec on est vraiment de manière très outrée et très caricaturale.
Vas-y,
quoi.
Dis ce que tu penses.
Je trouve que c'est un peu comme c'est intéressant parce que plus l'époque je trouve est excessive et violente, plus les cinéastes militants comme ça de gauche comme Ken Loach et comme Guédiguian font des films assez excessifs et outrés dans leurs intentions.
Ken Loach n'était pas outré
il y allait sans nuance. Après, c'était plus tenu, je crois, en termes de cinéma, mais c'était de plus en plus. Enfin, le patron Uber, il était quand même pas sauvé. Il y avait plus trop de nuances, quoi. Et là, vraiment, voilà, je trouve ça manque un peu de nuance. Je suis d'accord sur vraiment le côté très attachant et très touchant des plus âgés. J'aime bien aussi, il y a des plans de Marseille où la ville est toujours Marseille dont on a quand même.
Encore une fois, c'est une Marseille qu'il n'a jamais filmée.
Voilà, parce que la ville là, moi, je préférais la ville là parce que c'était ouvert sur la mer. Il y avait encore. Et là, on voit un Marseille qui est en travaux partout, qui est complètement. Tout est concentré, il y a toujours du bruit, tout est en construction, il y a une violence de la ville.
Ces grands immeubles où travaille, elle fait des ménages, Ascaride, c'est des immeubles évidemment.
Ou alors sans vie, voilà.
Qu'on n'a jamais vu dans le cinéma de Guédiguian. Hein.
Très moderne et sans vie. Donc je suis très partagé, je vois les intentions romanesques, je les apprécie. En même temps, je trouve qu'il y a encore un didactisme, et je ne devrais pas révéler à la fin, mais des ingratitudes de mise en scène, je trouve, dans la forme qui sont un peu problématiques.
Jean-Marc.
Oui, je pense aussi que ça ne lui réussit pas de détester certains de ses personnages. C'est qu'autant le film est assez fort sur l'empathie, une forme comme ça d'amour pour à la fois les personnages les plus âgés, mais aussi les victimes. Quand tout à coup il veut stigmatiser un jeune couple converti à l'hyperlibéralisme, je trouve vraiment que sa patte est beaucoup trop lourde. Sa cruauté, je la trouve malhabile. En plus, moi, j'étais extrêmement troublé par la façon dont ces deux personnages sont les personnages les plus sexués du film. Et c'est comme s'il y avait une analogie entre leur crapulerie économique et le fait
sexualité.
Et leur sexualité.
C'est pas impossible.
Une forme de puritanisme, quelque chose qui m'a beaucoup gêné. Et troublé. Je suis assez aussi gêné et troublé quand je vois l'acharnement contre le personnage de jeune homme syndicaliste. Tout à coup, Guédiguian, qui est plutôt un cinéaste qui a beaucoup cru au collectif,
mais là
il semble revenu de quelque chose. Il ne croit plus qu'en l'individualisme, et c'est un peu son désenchantement à quelque chose qui, moi, m'a un peu mis mal à l'aise. Après, je pense qu'il est arrivé à une très forte maîtrise dans le tricotage scénaristique, et sa manière de passer d'un personnage à l'autre, il y a quelque chose d'extrêmement bien tissé, tramé dans son récit, qui fait qu'il est assez prenant.
Sophie.
Oui, il y a sans doute des maladresses, des lourdeurs peut-être, mais il ruisselle tellement d'humanité, ce film. Il est d'une telle force, et en effet grâce à Gérard Mélan avant tout. Alors je suis très contente qu'Ariane Ascaride ait eu le prix à la Mostra.
Moi, il m'a bouleversé dans ce film.
Il est absolument extraordinaire, et c'est grâce à lui, surtout parce qu'il ne dit rien. En effet, il a vécu sa vie en quelque sorte, il l'a vécu en plus en prison, et il en sort.
Je suis pas sûr que ses haïkus soient très très bons, mais
on s'en fout. Mais ils ne parlent pas,
émouvants.
Il observe, il regarde. Il ne juge pas. Son premier mouvement, la première chose qu'il fait en sortant de prison, c'est se baigner. Il a besoin de ce contact avec la terre, avec la mer en l'occurrence. Franchement, c'est Luca Marinelli dans Martin Eden qui a eu le prix. Et je dis au passage que Martin Eden était un très très beau film. Mais vraiment, Gérard Mélan, il m'a tiré les larmes. Il est magnifique. Et tous les défauts par ailleurs, le côté un peu Ken Loach, parfois un peu lourdingue ou un petit peu didactique, il y a quand même une grande part de métaphysique dans ce film. Il y a quand même quelque chose de très spirituel. Il y a une notion de sacré que Gérard Mélan, et je pense le cinéma de Guédiguian en général, apporte, et qui mêlait en effet à cette humanité qui déborde, est absolument bouleversante.
Gloria Mundi, c'est Robert Guédiguian. Seules les bêtes, le film de Dominique Moll, à qui on doit il y a 20 ans déjà, Harry, un ami qui vous veut du bien. Après quoi, il faut le reconnaître, il nous a quand même beaucoup, beaucoup déçus, voire parfois un peu énervés. Et le voici, en tout cas, à mon avis, à nouveau en forme avec cette comédie policière tirée d'un roman de Colin Niel, au générique Denis Bénochet, Laure Calamy, Damien Bonnard, Valeria Bruni-Tedeschi. Le film s'ouvre à Abidjan. Là, ça va être très dur pour toi, ce film, Pierre, parce que je sens que tu vas déraper très vite. Hein.
C'est dur, mais pour
il s'ouvre à Abidjan, sous le plein soleil, pour plonger ensuite dans le Cosmejan, sous la neige, où une femme disparaît. Alors, en Afrique, puisque ça va alterner constamment tout au long du film, les ordinateurs tournent à plein régime, Vous me dites, hein, si j'en dis un peu trop, dans la campagne française, les éleveurs souffrent de la solitude. Voilà, je peux juste ajouter que il faut pas confondre dans ce film les moutons, ceux du Causse-Méjean qui broutent, et les cyberbrouteurs qui ont une activité plus complexe et moins reluisante. Non, j'en dis pas trop.
Non, tu es intrigant, mais
c'est limite, hein.
Ce qu'il faut.
Ouais. En tout cas, je trouve que Denis Ménochet en Paysan 2.0, tout à fait. Formidable, Sophie.
Bon, on l'avait un peu perdu, Dominique Moll, les derniers temps, et
oui,
il était,
même beaucoup perdu,
dit,
même égaré.
Mais je n'aimais, j'étais pas non plus très fan, moi, d'Harry, un ami qui vous veut du bien, et de Lemming. Je trouvais que c'était des trucs efficaces. Enfin, il y avait une sorte de volonté, comme ça, de jouer un peu avec l'étrange et le réalisme. C'était efficace, mais je trouvais très unidimensionnel. Je trouvais qu'il n'y avait pas d'épaisseur dans ces films-là. Jamais d'épaisseur. Et là, je trouve que, par la façon dont il adapte ce roman-là, alors, je sais pas si c'est à cause de la forme ou si c'est parce que le roman lui-même a cette ambition-là, je trouve qu'il arrive à trouver sa troisième dimension, en quelque sorte. Il arrive à embrasser le monde dans cette espèce de globalisation qui est censée détruire nos solitudes, alors qu'en fait, elle ne fait que renforcer nos solitudes, et en cela, épouser le net, hein, qui est une toile comme ça, qui
jusque-là, ça va,
fait croire aux gens qu'ils vont pouvoir se retrouver, alors qu'à la vérité, ça ne fait que solidifier leur solitude. Eh bien, je trouve que par cette façon de raconter cette histoire à cette façon, finalement, bon, qui est pas nouvelle, hein, Elephant, Gus Van Sant le faisait déjà dans Elephant, c'est-à-dire que chaque fragment renvoie à l'autre, le recoupe, éventuellement le contredit, chacun a sa version, et c'est comme une boule à facettes qui finit par former un tableau. Dans cette façon de construire le film qui est un petit peu artificielle, mais qui, je trouve, là, et pour le coup, est très efficace, il arrive, en effet, à montrer la solitude contemporaine à travers cette histoire policière toute simple d'une femme qui a disparu. On n'est pas obligé d'en dire plus. Et avec des personnages qui sont, en effet, assez bien dessinés, notamment Damien Bonnard, que tu as l'air d'avoir beaucoup aimé, et bien, j'abonde dans ton sens, parce que je trouve aussi que c'est un personnage intéressant, et je trouve que tous les personnages sont relativement complexes et intéressants.
Ouais, encore une fois, il alterne jusqu'au bout, c'est pas évident, la page africaine et la page française.
Non, mais je voulais être brève, mais
il tient cette idée-là jusqu'au bout.
Je trouve qu'il y arrive.
Nicolas.
Moi, alors, j'entends bien tout ce que tu dis du film, Sophie, et l'ambition qu'affiche le film, mais alors moi, je trouve ça assez laborieux. Et moi, ce que je reproche déjà au film, c'est de prendre les acteurs pour un peu la caricature de ce qu'on leur fait jouer depuis maintenant quelques années. Moi, alors Calamy, j'ai l'impression de la voir vraiment, tout de suite, j'ai l'impression de cerner son personnage, comme ça, de fille, généreuse.
Mais qu'est-ce qu'elle t'a fait? Elle est très bien dans ce film.
Non, mais je sais pas qu'elle est mauvaise, c'est vraiment la manière de l'utiliser. Après, Damien Bonnard, bon, on va pas en dire trop non plus, c'est le problème, mais son segment, je trouve que le personnage reste quand même très très flou et bah, au début j'ai du mal vraiment à m'intéresser à cette intrigue. On arrive au milieu, au segment du milieu qui je trouve le plus beau et le plus fort entre les deux personnages féminins, voilà. Et à partir de ce segment-là, j'ai l'impression qu'on est toujours en avance sur le film et qu'on prévoit tout ce qui va se passer.
Ah bah ça, alors donc, là. Vraiment, t'as prévu ce qui allait se passer juste
Si on commence à recouper, voilà, on voit ce que fait. Alors, oui. Le problème, c'est qu'on peut pas dire les choses. Et je trouve le film
fort,
à la fois a un regard sur les personnages que je trouve assez unidimensionnel et tout, personne n'est sauvé. C'est-à-dire qu'il y a vraiment il y a un manque d'empathie ou d'humanité dans la manière de les regarder et un manque d'humour. Parce que tu parlais de comédie policière, moi, honnêtement, j'ai quand même peu ri. Je vois vraiment le travail de scénario se faire. J'ai l'impression d'assister à la mise au plaquage d'un scénario sur l'écran. Et bon. Tout ça me passionne peu, sauf quand effectivement quelque chose d'un peu plus charnel et amoureux surgit au milieu du film. Mais sinon, je trouve ça quand même
Pierre.
Très laborieux.
Désolé, Jérôme, mais alors j'ai pas marché. Mais alors je non, peux tout venir, mais à des kilomètres.
Vous avez le droit de pas marcher.
Non,
moi j'ai le droit de marcher.
En plus, j'aime beaucoup moi les films comme ça qui se complètent, des puzzles qui s'emboîtent. Donc je suis très preneur. Mais alors là, tous les personnages sont antipathiques, tous. Alors,
mais non, je ne demande pas.
Au contraire, me plaît bien généralement que les personnages soient pas tous
les animaux souffreux,
etc. Mais là, ils sont sans intérêt aucun. Et alors, le pompon, c'est quand même Denis Ménochet. Je vais pas raconter en détail
pourquoi
ce qui lui arrive, mais parce que plus crétin que ça, c'est difficile. Alors, je sais bien qu'on peut se laisser avoir.
Alors là, le courrier des agriculteurs, il ira directement à Télérama.fr. Hein.
Ah, mais c'est pas parce que c'est pas son métier, c'est son comportement en dehors de son métier que je trouve un petit peu ridicule.
son comportement est dû à la solitude de son métier.
Non, c'est pas parce qu'on est seul qu'on est crétin. Non,
mais il a besoin de rêver. Bon, c'est peut-être pas vraisemblable, mais il a besoin de rêver.
Non, non, il a rien dans le ciboulot et il se fait avoir comme un bleu.
Il y a des gens comme ça aussi.
C'est très bien. Et alors, en plus, je suis d'accord avec Sophie. Moi, Dominique Moll, même Harry, un ami qui vous veut du bien, qui a eu des Césars, sur laquelle on délirait, je trouvais ça un peu lourd, du sous Hitchcock. Là, c'est du sourien.
Jean-Marc.
Oui, alors moi, je dirais pas du tout que j'avais tout prévu. J'étais pas constamment surpris, mais être surpris de cette façon ne m'intéressait pas du tout. C'est-à-dire que je pense qu'en cela, ça n'a vraiment rien à voir avec Elephant. C'est-à-dire qu'Elephant n'était pas un film fondé sur des coups de théâtre. Alors que là, les efforts pour raccrocher des wagons et qu'on découvre que X, en fait, c'est la femme de Y, je trouve que, d'un côté, ça me rappelle vraiment, pour moi, le pire cinéma, genre de Babel de Inaritu, vraiment un cinéma de scénariste omnipotent qui peut, comme ça, manipuler des marionnettes pour créer des effets guignolesques. Et en plus, je trouve que c'est une espèce de métaphysique du battement d'ailes de papillon que je trouve à la fois perché et pas très intéressante. Et en plus, je pense que l'industrie de la série aujourd'hui a périmé ce type de fiction qui se veut arachnéenne. Et je pense que ça se déploierait peut-être sur une saison entière et ça deviendrait vertigineux. Là, c'est juste extrêmement artificiel.
Ce que je veux rajouter...
On n'aura pas le temps d'évoquer les trois films qui restent. Vous avez été très long sur les précédents. Là, si on veut un peu de temps pour les trois derniers, d'accord. On arrête. C'est Seules les bêtes, surtout après ce que vous avez dit. Seules les bêtes de Dominique Moll. Allez, à couteau tiré de Rian Johnson avec Daniel Craig, Anna de Armas, Chris Evans, Jamie Lee Curtis, Tony Collette, Michael Shannon, un film noir, là on peut le dire aussi, de 2h11, où l'auteur de Polar, Harlan Thrombey, qui est joué par Christopher Plummer, escorté d'une jeune infirmière en situation irrégulière, interprétée par Anna de Armas, reçoit sa famille dans son beau manoir américain, mais on pourrait être dans l'Angleterre profonde, avant le Brexit, à l'occasion donc de son 85e anniversaire. Problème, le lendemain matin, il est retrouvé mort, la gorge tranchée, suicide ou meurtre. L'inspecteur Elliot enquête et le détective privé Benoît Blanc, un mix, si vous voulez, de James Bond et de Hercule Poirot, qui est joué par Daniel Craig, entre dans la danse. Il y a un côté un peu Agatha Christie dans ce film en tweed et en cuir, signé pourtant par le réalisateur du 8e épisode de Star Wars. Jean-Marc ?
Oui, c'est quand même beaucoup plus près de Hercule Poirot que de James Bond, même s'il y a Daniel Craig.
C'est pour ça que je le aime, apparemment c'est mal passé.
Daniel Craig, un Hercule Poirot, ce qui est assez surprenant. Le film est assez plaisant, assez réussi, mais je le trouve assez vain, malgré tout. Et surtout, moi,
Ryan Johnson... Il faut dire qu'à l'époque des séries...
Non, parce que Rian Johnson, ses films de cinéma m'intéressent beaucoup, et notamment un qui s'appelle Looper, que je tiens pour un plus grands films américains des années 2010. Et même son Star Wars, je trouve qu'il réussissait à l'intérieur de ce système très contraignant qu'est la franchise Star Wars, à être vraiment un cinéaste ayant une personnalité d'auteur très forte. Là, alors que c'est un dispositif beaucoup plus léger, je trouve le film plus conventionnel, vraiment très réussi, et c'est un film assez divertissant, mais dont je comprends pas tellement l'enjeu, ni pourquoi il fait le film.
Sophie
Oui, alors moi non plus, je comprends pas du tout. Je me suis ennuyée en plus.
C'est trop long.
C'est sympathique.
Ça aurait bien tenu en une heure et demie.
Mais même en une heure et demie, on a déjà vu ça des centaines de fois. Enfin, je vois pas l'intérêt d'un film comme ça. Alors, il est sympatoche, comme dirait Pierre, si on veut vraiment le défendre. Mais enfin, franchement, je me suis ennuyée. J'ai eu l'impression d'avoir vu ça. Le patriarche qui est réuni autour de lui à cause de cette mort, tous les enfants autour, ils ont tous des raisons d'eux. Mais oui, c'est Agatha Christie, d'accord. Mais on l'a dans le même lieu, le même château, mais on a vu ça des centaines de fois.
Château, manoir.
Ça, oui, le manoir, si tu veux.
Bon, américain.
Grande maison. Enfin, peu importe, dans un manoir, un château ou une petite maison, c'est quand même très, très vain, en effet, c'est le mot.
Pierre ?
Je suis d'autant plus déçu, moi, que, en effet, Jean-Marc a signé les Looper, et puis le premier qu'il avait fait, qui s'appelait Brick, qui est un petit polar absolument génial. Et là, je suis absolument comme vous, je trouve ça Agatha Christie, mais alors à ce moment-là, je préfère revoir Sidney Lumet, Le Crime de l'Orient Express, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus drôle. Et là, c'est sans grand intérêt. Si, alors il y a Don Johnson et Jamie Lee Curtis qui font un numéro, donc c'est très plaisant, mais franchement, de la part de Rian Johnson, je suis vraiment très déçu.
Nicolas,
c'est un peu plus malin et amusant que ça. C'est qu'on sent un vrai plaisir déjà à aller chercher des stars des années 80, des ex-stars un peu losers aujourd'hui comme Jamie Lee Curtis, en tout cas qui travaillent moins comme Jamie Lee Curtis ou Don Johnson, et leur donner vraiment des rôles. Cette famille, c'est aussi une famille très réac. Et il y a derrière, il y a quand même un sous-texte sur l'Amérique de Trump, sur une manière très, voilà, très ludique.
Et surtexte quand sous-texte.
Oui, mais voilà. Il y a un côté. Ça me fait un peu penser à Parasite aussi dans l'amusement et ce dispositif.
Non, mais
je parle pas en termes de. Je parle pas du tout que je dis pas que le film est aussi abouti et aussi. Effectivement, il est trop long, il est un peu autosatisfait. Mais il y a une malice, moi, que je trouve assez sympathique. Et il y a même des petits clins d'œil au Limier comme ça de temps en temps. Bon, c'est. Je trouve pas ça. Je vous trouve un peu dur, quoi. C'est un petit plaisir du samedi soir avec une durée un petit peu excessive, non. Mais bon.
À couteau tiré, c'est signé Rian Johnson. Encore un polar, cette fois un peu plus long, 2h30. C'est Brooklyn Affairs de l'acteur américain Edward Norton qui en est aussi le producteur, le scénariste. L'acteur principal, je suis étonné qu'il ne soit pas le monteur d'ailleurs de ce film, avec aussi Alec Baldwin, Bruce Willis, Willem Dafoe. À New York, là, on est au milieu des années 50. Lionel Hesrock, c'est donc Norton, qui est détective privé, est atteint de la maladie de Gilles de la Tourette qui provoque des tics, des cris, des interjections incontrôlables. Il enquête sur le meurtre de son unique ami et ancien boss, qui est Frank Mina, qui est joué avant sa mort par Bruce Willis. La maladie l'ayant rendu obsessionnel, Lionel parvient à connaître le secret de feu son patron, qui avait découvert la corruption d'un conseiller municipal de New York, par ailleurs mania de l'immobilier, sans scrupules, ce qui est d'ailleurs un peu un pléonasme, incarné par Alec Baldwin. Voilà, et ce n'est pas tout. Tout ça rythmé sur des airs de jazz. On a l'impression que Norton aime beaucoup, beaucoup le jazz. Jean-Marc ?
Je ne l'ai pas vu.
Tu ne l'as pas vu, Sophie ?
Moi, j'aime plutôt ça. J'y suis allée vraiment complètement à reculons, persuadée qu'on allait avoir une espèce de Rain Man dans les années 50 américaines. Et alors, pas du tout. Je trouve que de ce syndrome de la Tourette, Norton fait quelque chose d'assez joli parce que il fragilise son personnage, il en fait un anti-héros. Et assez vite, moi, j'ai été conquise par sa façon de jouer de ça, alors qu'en général, c'était... Et je trouve que c'est un très beau film de personnage. J'aime beaucoup la façon dont il montre le Moses, là, qui est joué par Alec Baldwin, de dos. D'abord, et puis en fait, petit à petit, prenant le pouvoir comme ça sur la ville, je trouve qu'il a une façon de soulever le couvercle de ce rêve américain qui est assez troublant, sachant qu'en plus, lui, je crois, son grand-père était aussi architecte avec plus de probité que n'en avait Moses. Et sur cette Amérique des bâtisseurs, sur cette Amérique, le rêve américain, encore une fois, etc., il porte un regard qui, alors c'est le roman hein, de Lessem qui est sans doute comme ça, mais il en fait vraiment un peu trop de musique, mais un beau film, encore une fois, de personnages, notamment le type joué par William Dafoe qui est complètement bizarre, qui est tout le temps là, alors je dis pas qui il est en fait parce qu'on le découvre dans le film et qui est irrésistible, je trouve, de drôlerie, enfin, et la fille qui s'appelle, qui est formidable, Gugu Madmaro, bon, bref, il arrive je ne sais trop comment, mais à happer vraiment et en plus le nœud de l'intrigue c'est de l'intime, et je trouve que ça c'est très beau parce qu'il parle beaucoup des bâtisseurs, mais c'est l'intime au centre de tout.
Mais je suis pas loin d'être d'accord avec toi, sauf que vous allez me trouver un peu obsédé, mais je trouve que 2h30 pour ça, c'est totalement...
J'ai pas vu passer, honnêtement. Autant je me suis emmerdée à l'autre, là, à couteau tiré, autant celui-là, j'ai trouvé qu'il y avait trop de musique, mais à part ça, j'ai vraiment été absorbée.
Nicolas?
Effectivement, c'est un film un petit peu lâche et un petit peu, mais c'est ce qui fait son charme aussi. C'est-à-dire que Norton a vraiment un amour d'un certain cinéma classique. Moi, j'aimais vraiment bien son premier film qui était une comédie qui s'appelait Au nom d'Anna, avec Miloš Forman qui joue un petit rôle. Il y avait Ben Stiller. C'était vraiment un film vraiment assez sensible et très bien vu. Et j'ai l'impression comme ça qu'il va vers un cinéma presque démodé. Et là, il renoue avec un film noir qu'on n'avait pas vu de film noir depuis Les Confidential ou même les années 90 avec des auteurs un peu oublié comme John Dahl qui faisait des bons petits films noirs comme ça. Et là, je trouve qu'il arrive à retrouver cet esprit-là. Bien sûr, encore une fois, il parle des années 50, mais il parle d'aujourd'hui. C'est-à-dire que la gentrification de New York, c'est aussi là-dessus, parce que même si c'est un décalage temporel, avec Baldwin, c'est assez marrant de l'avoir pris comme ça, qui beaucoup à la télé américaine est très connu pour imiter Trump. Et là, il en fait vraiment une figure trumpienne, mais assez terrifiante. Et surtout, je trouve qu'il filme très très bien les bouges de jazz. Il y a une scène dans une boîte de jazz qui dure à peu près comme une espèce de parenthèse dans le film qui a un charme dingue, et ce qu'il fait avec cette actrice, leur rapport, il y a vraiment une forme de sensualité très old school et jazzy, vraiment très charmante, et ça me fait penser parfois à certains films d'Eastwood, comme c'est un peu lâche, comme Minuit dans le jardin du bien et du mal, comme des films un peu jazzy d'une autre époque, et je trouve que c'est un film qui a beaucoup de charme malgré ses maladresses et sa longueur.
Pierre.
Moi je suis d'accord, je trouve que c'est très bien, et puis enfin moi ça m'a surtout rappelé alors un pardon de reparler de Polanski, mais Chinatown, parce qu'il y avait, il y avait ça, c'est-à-dire que il y a la corruption là-bas, c'était l'eau, là c'est les immeubles, mais c'est toujours, c'est dans les films noirs américains, c'est toujours comme ça des méchants qui s'attaquent à la ville. Et je trouve ça très joli. Et alors moi qui suis un fan de jazz, le fait de l'associer justement les stridences du jazz
avec la maladie
dont il souffre, c'est une très 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 belle idée. Et puis quand on dit la musique de Daniel Pemberton, puis c'est Winston Marsalis quand même qui orchestre ça, c'est absolument superbe. Là, un poil long peut-être et un peu désuet, mais si on aime un cinéma désuet, vraiment on y va et on s'ennuie pas.
Et c'est donc Brooklyn Affairs de Edward Norton. Et on termine avec It Must Be Even, le nouveau film du Palestinien avec, je le rappelle, passeport israélien. Elia Souleiman avec Elia Souleiman, Tariq Copti, Gaël Garcia Bernal, Grégoire Collin, qui fait de plus en plus de troisième, quatrième rôle comme ça dans les films. Vous avez remarqué ces temps-ci. Dans ce film aussi personnel que les précédents, en compétition à Cannes. Donc, Souleiman alias ES quitte la Palestine et part à la recherche d'une nouvelle terre d'accueil avant de réaliser que son pays d'origine le suit comme une ombre. Alors qu'il aille à Paris, où les tanks du 14 juillet se baladent sur les boulevards, ça lui paraît très bizarre, ou à New York, où même les enfants sont armés, tout lui devient, sinon absurde, du moins burlesque, avec parfois des mots émouvants et forts, comme ce « tout le monde boit pour oublier, les Palestiniens sont les seuls à boire pour se souvenir », ou encore cette scène où le producteur, le vrai producteur du film, Vincent Maraval, rejette le projet du cinéaste au prétexte qu'il n'est pas assez palestinien, avec toujours Souleiman qui se balade, moitié Monsieur Hulot de Tati, moitié Buster Keaton. Jean-Marc, tu l'as vu celui-là ?
Oui, je l'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment très beau. C'est très beau sur la condition de minoritaire. Qu'est-ce que c'est que de venir d'un territoire qui est minoritaire, mais aussi de pratiquer un métier qui vous rend minoritaire ? Et c'est la difficulté d'être sur la carte alors qu'on voudrait nous enrayer, que ce soit parce qu'on est palestinien ou parce qu'on est un artiste d'art et d'essai, un artiste de cinéma. Il y a vraiment des répliques savoureuses, on a cité certaines, mais j'adore aussi, c'est un cinéaste palestinien, mais drôle. Comme si c'était invalidant pour un Palestinien d'être drôle. Donc c'est vraiment ce qui est formidable chez Souleiman, c'est qu'il a vraiment un talent de diariste. Il fait des croquis extrêmement bien observés, et c'est ce qui rend son cinéma précieux et ce qui fait aussi qu'on voudrait sans arrêt voir ses films, parce que c'est un observateur idéal du présent. Sauf que hélas, le système de production fait qu'il ne fait qu'un film tous les 10 ans, et que dans cet intervalle-là, il manque énormément, et son regard extrêmement aiguisé sur le monde contemporain nous serait vraiment précieux de manière annuelle.
Il faudrait que Monsieur Maraval lui donne plus d'argent pour qu'il en fasse davantage. Pierrot, quelques mots.
C'est magnifique, c'est superbe, ça continue. Enfin, tous les films qu'il a fait sont marqués par. Alors, on parle souvent de Tati, et lui semble refuser Tati, enfin, qu'il admire beaucoup, mais
c'est l'impression qu'il donne à l'écran, je dis pas.
Mais tu as tout à fait raison. C'est évidemment Tati auquel. Et lui, sa référence, curieusement, c'est Ozu, ce qui est très curieux. Mais ça se comprend parce qu'il filme pas au ras du tatami, mais il filme comme ça, des plans comme ça, des gens comme ça qui au loin sont doubles, sont triples, sont et c'est tout à fait magnifique. Et puis il y a une scène, alors moi le sketch, c'est pas un sketch, mais le segment que je préfère, c'est Paris. Parce que Paris est absolument formidable. Entre les femmes qui défilent, enfin, qui marchent au ralenti, la scène avec l'oiseau, l'ordinateur et l'oiseau, qui est presque, c'est absolument splendide.
Sophie?
On parlait tout à l'heure des haïkus, c'est un peu le haïku maker du cinéma, parce que c'est des petites vignettes, comme ça, en effet, qui sont très belles, très poétiques, et qui parlent du monde, et de la façon dont les particularismes, finalement, sont assez, les frontières sont assez vaines et absurdes. En effet, il y a une phrase, Jean-Marc disait qu'il y avait des scènes comme ça des dialogues absolument savoureux. Il y en a à un moment donné, quand il est à New York, le type pour qui il vient faire une conférence, qui lui dit « Est-ce que vous êtes un étranger parfait ?» Et lui, qui dit rien d'ailleurs, et qui dit presque rien dans tout le film, le regard avec un air hébété, et il souligne comme ça, de manière très fine, l'absurdité de ça, quoi. C'est très beau.
Nicolas ?
Oui, moi je vais mettre un petit bémol, parce que je trouve que c'est un burlesque et une poésie qui nécessite une forme. C'est toujours sur le film, vraiment, c'est une grâce et une légèreté. Et moi, j'ai l'impression que ces croquis sont parfois très, très appuyés. Et je trouve que, voilà, enfin, la manière, quand il filme New York avec tous les gens qui portent des armes sur eux.
C'est drôle.
C'est amusant, mais ça va jamais très, très loin. J'ai l'impression parfois où c'est à la limite de l'empilement parfois de clichés qui ne vont pas beaucoup beaucoup plus loin que ça, et je suis un peu embêté parce que je trouve qu'il y a des vraies belles idées, qu'il y a des belles choses. Tu citais Giraud tout à l'heure la phrase d'un formidable tout le monde boit pour oublier et vous les Palestiniens pour vous souvenir. Il y a comme ça des éclairs. Mais par exemple, moi, le défilé à Paris sur la musique de Nina Simone, c'est un peu lourdingue et puis ça mais dure pas... et puis il y a quelque chose d'un peu vieillot dans le cinéma qui mettre 10 ans à faire ça, ça serait des vignettes quotidiennes comme ça un peu. Je trouve qu'il y a pas la finesse d'un Sampé pour prendre le côté croquis comme ça. Je trouve ça parfois un peu appuyé et ça manque un peu parfois de. On a un peu compris l'intention un peu vite. Donc voilà.
Even, le nouveau film de Elia Souleymane. Allez, un conseil pour terminer cette émission. On va commencer avec Pierre.
Alors deux très très vite. Un premier film qui est en salle qui s'appelle Sympathie pour le diable de Guillaume de Fontenay. Ça se passe à Sarajevo. C'est l'histoire du journaliste Paul Marchand. C'est vraiment superbe. Je vous le conseille. Et puis alors un bouquin. Je vous avais parlé il y a quelque temps de Patrick Brion qui avait fait une encyclopédie du film policier. Alors ça s'arrête dans les années 60 et voilà que ça paraît 1961-2018, 1300 films. Alors s'il y a 768 pages, alors c'est un pur régal parce que tous les films sont analysés, détaillés. Alors le commentaire est un peu froid quand il aime pas, il est très 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 personnel et chaleureux quand il adore, et c'est vraiment on passe son temps à le feuilleter, c'est absolument splendide, et c'est aux éditions Télémac.
Jean-Marc, ton conseil ?
Une sortie en DVD, un film qui était sorti en salle il y a 20 ans, qui s'appelle Plus qu'hier, moins que demain, le premier long métrage d'un cinéaste trop rare qui s'appelle Laurent Achard. C'est un très beau film sur les peurs enfantines. Et le long métrage est accompagné de deux courts métrages de ce même cinéaste, qui pour moi sont deux chefs-d'œuvre absolus.
Moi, c'est pas un conseil, c'est un dernier appel pour vous proposer, comme chaque année, de voter pour le prix annuel des auditeurs du Masque et la Plume. Vous m'envoyez, s'il vous plaît, une carte postale au Masque et la Plume, France Inter, 116 avenue du Président Kennedy, dans le 16e à Paris, ou un courriel sur le site de l'émission à la rubrique courrier pour nous dire tout simplement le film français et le film étranger que vous avez préféré au cours de l'année 2019, et cela avant le 25 décembre. Et nous fêterons vos résultats en début d'année. Le conseil de Sophie.
La vie invisible de Ridis Gusmão, qui est un film brésilien somptueux.
Dont nous allons parler dimanche prochain.
J'en profite pour dire tout le bien que j'en pense. C'est un film tellurique, magnifique, qui se passe dans les années 50. Et alors, si je peux me permettre un deuxième petit conseil, ça serait Jeune Juliette, qui est une petite comédie absolument irrésistible. Jeune Juliette, c'est un film canadien d'année de nom.
Le conseil de Nicolas.
Alors, on parlait tout à l'heure de Seules les Bêtes que j'avais pas trop aimé. Mais le scénariste de Seules les Bêtes, Gilles Marchand, a fait un documentaire absolument passionnant sur l'affaire du petit Grégory qui passe sur Netflix, qui a avec des références cinématographiques.
Ah, tu conseilles donc un film Netflix là.
J'ai pas le droit.
Non mais.
Et sur la construction du mal, la construction collective, comment on peut participer, même parfois sans le vouloir, au mal, et qui est aussi le sujet de Seules les Bêtes. Je trouve ce documentaire beaucoup plus intéressant et qui part de documents d'archives. Pour aller vite. Et sinon, du classique, mais Alfred Hitchcock est à la Cinémathèque juste jusqu'au 19 janvier. Et si vous avez jamais vu Sueur froide avec la vraie copie d'époque et pas le mixage de la version restaurée, qui était assez laborieux, c'est l'occasion de se refaire des classiques. Hitchcock en salle, c'est quand même toujours mieux, et pour Noël, voilà.
Un mix Cinémathèque-Netflix, c'était très tendance, Nicolas. tous ces conseils, vous les retrouvez sur le site du Masque et la Plume, franceinter.fr. Merci beaucoup, Sophie Avon, Nicolas Chalère, Jean-Marc Lalanne et Pierre Murat pour cette émission qui était, comme chaque semaine, présentée par Jérôme Garcin, avec la collaboration de Lisiane Selam. Et ce soir au théâtre de l'Alliance française, à la technique, il y avait, et je les remercie, Yvan Charby, Valentin Azan-Zielinski, ainsi que Philippe Thibault. La réalisation était signée Xavier Pestugia. Notez bien, s'il vous plaît, que le prochain enregistrement du Masque, eh bien, c'est jeudi prochain. Jeudi 19 décembre, c'est toujours au théâtre de l'Alliance française, 101 boulevard Raspail, dans le 6e à Paris. Pour deux émissions, l'une consacrée au cinéma et l'autre au livre. On parle de films dans une semaine et je vous dis à dimanche prochain sur France Inter, évidemment.